Good Morning Business. Le débat.
Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Le Passeroy, il sort aujourd'hui pour les jeunes. 49 euros, vous allez partout. Alors, pas les TGV, hein, ça sera juste pour les petites lignes.
Et pas le Transilien non plus.
On sait qu'en Allemagne, ça n'a pas marché.
Oui.
Mais nous, on le fait quand même.
Ah oui, c'est vraiment... On est champion quand même des mesures titaniques, quoi. Alors là, on s'apprête à prendre une décision qui va coûter de l'argent public. C'est pas tellement le moment de dépenser de l'argent pour un truc dont on sait exactement ce qui va se passer. On a plus d'un an de recul chez les Allemands qui ont fait exactement la même chose, exactement au même prix. Première observation en Allemagne. Bon, l'idée c'était moins de monde sur les routes, plus de monde dans les trains, youpli youpla, vive le transport collectif, bien sûr. Alors première observation, il y a eu 11 millions d'abonnés. Il y en a que 8% qui n'utilisaient pas les transports publics au préalable. C'est-à-dire c'est exactement le contraire de l'objectif.
Donc c'est des gens qui se payaient des billets.
Donc c'est juste un effet d'aubaine maximum en Allemagne. Au début, on voulait doubler la fréquentation des transports publics, ça n'a pas été le cas. Super méga effet d'aubaine avec ce passe à 49 euros. En Allemagne aussi, c'est le même prix. Deuxième observation, plus d'un an de recul quand même, zéro impact sur les émissions de CO2 dans les transports, zéro impact sur l'engorgement et le trafic routier. Troisième remarque, 3 milliards d'euros de coûts pour l'État et les lenders sur un an. Ils avaient calculé que pour essayer de tendre vers une forme d'équilibre, il fallait arriver à 16 millions d'abonnés. On s'est arrêté à 11 millions d'abonnés. Donc en plus, sur le plan financier, échec total. Alors après, il y a une raison qui sont le plus propre à l'Allemagne et qui nous concerne un petit peu moins, c'est qu'on a quand même une jolie offre de train en France, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est encore une fois, on est capable de prendre une décision au moment où on prend cette décision, en sachant que cette décision, il ne faudrait pas la prendre. Et c'est quand même un truc qui est assez récurrent dans notre histoire politique. En 1981, quand François Mitterrand met la retraite à 60 ans, il sait qu'il ne faut pas le faire. Mais il le fait. Puisque le même François Mitterrand, ministre par le passé, s'était opposé au recul de l'âge de départ à la retraite. De la même manière, quand on fait les 35 heures, les concepteurs des 35 heures, au moment où on vote les 35 heures, ça avait été prévu pour être en fait un argument de campagne politique. On va le faire quand même, on va aller jusqu'au bout de l'histoire, et on sait quand on le vote.
Oui, mais ça plaît politiquement et électoralement.
Oui, mais il y a des pays.
Vous parlez qu'économie, on dirait Jean-Marc.
Il y a des pays où on est capable d'avoir des débats un peu enflammés sur des sujets, mais et notamment chez les Anglais, cher à Jean-Marc Daniel, quand on va devant le. Au moment du vote, on évite de voter n'importe quoi. Et il y a une forme de raison universelle qui reprend le dessus. Donc on vote les 35 heures alors qu'on sait qu'il ne faut pas le faire.
Ils ont voté le Brexit, je ne comprends pas votre...
Non, c'est les Anglais qui ont voté au référendum. Hein. C'est pas le Parlement britannique.
D'accord. Les politiques sont plus responsables que les Britanniques. Ça y est, j'y suis.
Non,
j'ai compris.
Et de la même manière, quand François Hollande vote la taxe à 75%, il sait qu'il ne faut pas le faire, que c'est juste complètement contre-productif. Et pourtant, il va la voter. Il avait raconté pendant la campagne qu'il fallait pas le faire, mais il va le faire. Et ben là, bon, alors là, le passerail, c'est anecdotique.
Oui, c'est une cacahuète.
Oui, c'est une cacahuète. Mais c'est un exemple de plus de ce que j'appelle des mesures titaniques. Et puis en même temps, vous lisez les colonnes de l'Opinion aujourd'hui, et Emmanuel Ducrot vous explique que pour faire des économies, on va probablement mettre fin au système d'aide pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures. Alors que ça fonctionne du feu de Dieu et que ça a permis de dépasser l'objectif de photovoltaïque en France en atteignant 20 gigawatts de puissance alors qu'on en espérait 18. Donc on s'apprête à faire des économies sur le photovoltaïque et on s'apprête à dépenser de l'argent pour un truc dont on sait que c'est voué à l'échec. Ça, c'est merveilleux.
Le passerail, votre avis?
Alors, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, d'abord, je souscris à une chose, c'est la sagesse du Parlement britannique. Je pense que depuis la fin de la guerre de 7 ans, ils n'ont commis aucune erreur.
Bien
le Parlement britannique que...
J'espère qu'on est diffusé en Grande-Bretagne et qu'ils vous écoutent, ça va leur faire du bien.
Oui.
Surtout en ce moment.
Ils ont des doutes et tout ça.
Donc, voilà, ça leur fait du bien.
Après, sur le fond du passerail, je serais moins sévère. D'abord parce que le gouvernement sait exactement l'enjeu. C'est-à-dire, Nicolas l'a rappelé, en Allemagne, ça concernait finalement 8%
de nouvelles personnes.
Et donc là, pareil, le gouvernement considère qu'il y a 700 000 personnes qui vont se rajouter aux gens qui utilisent déjà le train, c'est-à-dire 10% de cette classe d'âge, c'est-à-dire qui va pouvoir se retourner vers le train. Le deuxième élément, c'est que effectivement, alors en revanche, le train est déjà assez bon marché en France par rapport à, justement à l'Allemagne et à nos partenaires européens. Hein, aux 100 km sur ce type de réseau, hein, sur les TER, les intercités et tout ça, qui sont les trains les subventionnés par définition. Le coût moyen pour l'usager est de 7,68 € en France pour 100 km, alors qu'en Allemagne, il était de 11,26 € avant la création de ce pass.
Il faut prendre le train ailleurs pour se rendre compte qu'en France, on est bien doté quand même.
Oui, on est assez bien doté et c'est pas très cher. Et je rappelle, alors, et je je rappelle que la moyenne de l'Union européenne, c'est 9,43 €. Donc, on est déjà dans une situation où le train est déjà relativement peu cher et donc très subventionné. C'est-à-dire, il est subventionné à hauteur de 75%, alors que, indépendamment du Royaume-Uni, dans l'ensemble de l'Europe, il est subventionné uniquement à 65%. Et donc, la question qui va se poser, c'est effectivement, qui va payer ? C'est-à-dire, est-ce que, puisque c'est pas l'usager, est-ce que c'est le contribuable d'aujourd'hui?
A priori, non.
Ah oui. A priori, bon. Comme c'est du déficit, en fait,
c'est le contribuable de demain
qui va payer, parce que ça va faire du déficit. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on pourrait pas demander aussi à la SNCF de faire un peu des efforts d'économie? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout à fait sain d'augmenter les salaires à la SNCF, de diminuer les recettes de la SNCF, et de dire, mais tout va bien, le contribuable est là. Il y a un moment
J'aime
où le contribuable
vous posez ça avec votre petite
ne
voix.
Doit pas être...
Je sais pas.
Là.
Je pose la question. Je n'ai pas la réponse. Mais voilà.
Est-ce que le contribuable pourrait être tout le temps là? Je pose la question.
Ah, allez,
mais c'est vrai, il faut rappeler que quand on paye un billet 2 € en Île-de-France, le vrai prix, c'est 8.
Merci beaucoup à tous les deux.